Dans le retour, un show capotin, dérisoire.
C'est la première fois que je dis ça de mon existence, mais je trouve vraiment que ce show-là manque de sérieux.
Même intelligent.
C'est drôle.
De quoi?
Ah ouais, pas mal.
Qu'est-ce qu'il dit, là?
Des fois.
Je sais rien.
On est sur le Twitch, twitch.tv, la chaîne BLVD barre en dessous FM. Je vous invite également à notre chaîne YouTube où on ramasse beaucoup de stock. Tous les épisodes de podcast sont disponibles. Nos conversations du vendredi avec Pierre-Aude également dans un playlist isolé. Les meilleurs et les pires moments en ondes également. Chaîne YouTube de Boulevard 102.1, 16h08. Quoi que ce soit sur les routes, c'est le 418-971-1021. Évidemment, on va jaser d'actualité et de politique. Je pense que c'est la première fois qu'on va lui parler dans le retour. Puis moi, je suis un gros fan. Le nombre de fois j'ai dit que je la trouvais bonne. On est mieux d'être bons ensemble. Sans ça, j'ai vraiment un problème.
La barre est haute. D'appréciation.
Antonine Iacarini, chroniqueuse politique, bonjour.
Allô.
Ça va bien?
Oui, merci de nous recevoir.
Hey, on a plein de sujets à jaser parce que ça s'est accumulé, mon Dieu, comme les dettes sur une carte de crédit du gouvernement. Et d'ailleurs, ça retient beaucoup l'attention. C'est une enquête du Journal de Québec qui fait état de nombreuses dépenses plus ou moins justifiées, que ce soit en voyage ou dans le quotidien des fonctionnaires.
Ça, ça a le don de choquer le monde.
Hey!
Moi, je ne suis pas parmi les gens les plus cheap par rapport à nos élus. Okay? Je tiens déjà à le dire.
Ouais.
Souvent, je trouve que les gens sont critiques. Oh, ils ne devraient pas avoir de véhicule de fonction. Oh, ils ne devraient pas faire de mission à l'étranger.
Mm-hmm.
Je ne fais pas partie de ces gens-là.
Tu as une bonne latitude.
J'ai
tu
une bonne latitude. Permets. Sauf que là, honnêtement, ça fait un peu dur ce qu'on apprend dans le journal
de
Québec.
C'est quoi? C'est 350 000 transactions qui totalisent 48 millions sur 23 ministères depuis 2021 sur des cartes de crédit. Puis ça n'a jamais été souligné, ça n'a jamais été rendu public, en fait.
Bien, comme c'est souvent le cas, ça prend une enquête d'un journaliste à un moment
incroyable.
Donné, on dirait, pour faire un petit ménage là-dedans. Moi, ce qui me fascine à la base, c'est pas que... Des fois, tu utilises une carte de crédit en disant tu vas rembourser. C'est des choses qui peuvent se faire. Mais c'est de voir qu'il y a des gens qui ont des comportements que, tant qu'ils ne se brûlent pas, on continue.
Personne ne s'en est rendu compte. Je continue, j'essaie.
Ben voyons donc. Il me semble que c'est évident que ça va finir par sortir. C'est toutes des informations qui sont publiques de toute façon. Il y a quelque chose qui s'appelle l'étude des crédits à l'Assemblée nationale une fois par année. Là. Ben, c'est le genre d'affaires que tu vois dans les chiffres à la fin de l'année. Donc, c'est un petit peu, j'ai vraiment de la difficulté à comprendre ça. Puis dans un contexte où le gouvernement, ça va pas si bien que ça. On leur pardonne moins de choses. Hein? Puis là, c'est comme des genres de petites niaiseries qui viennent leur faire perdre une journée, deux journées, une semaine, puis qui viennent baisser la confiance. Donc, je trouve ça vraiment inutile pour eux, en tout cas.
Puis on dirait que c'est à tous les étages de la pyramide aussi. Ça part du haut avec le premier ministre qui s'achète un cadre de Guy Lafleur pour son bureau.
Dieu.
Et en bas de ça, ben, on a des fonctionnaires qui s'en vont aux Émirats arabes unis dans des hôtels 5 étoiles. Je comprends que des missions à l'étranger, c'est important, mais quand c'est présenté de cette façon-là, et quand on se rend compte que le gouvernement contourne sa propre loi pour tenter de camoufler des dépenses, ça passe mal.
Bien là, le chandail du Canadien, parlons-en quand même quelques instants, je ne comprends pas. Puis là, probablement qu'on va apprendre qu'il va y avoir des remboursements. Là. Il va y avoir des gens qui vont rembourser certaines dépenses.
J'ai essayé, Antonine, ici, avec mes boss de Leclerc Communication, je voulais un beau chandail de Patrice Bergeron signé pour décorer le bureau. Ils ne veulent pas le payer.
Ouais, mais on ne signera pas la facture.
Ça marche pas!
Mais tu sais, le chandail de Guy Lafleur, mettons.
Ouais.
Moi, je l'aime beaucoup, Guy Lafleur.
On aime tous Guy Lafleur. Mm-hmm.
Puis je trouve que c'est un beau chandail.
Ouais.
Bon, deux choses. Un, si c'était un chandail qu'on dit il y a une valeur historique
c'est
et
quelque
patrimoniale,
chose de patrimonial, ouais.
On va l'exposer à l'Assemblée nationale. Bon, bonne chance pour justifier ça, mais mettons, là. OK.
Dans le salon bleu-blanc-rouge, j'imagine, ouais.
Mais il est dédicacé au nom de François Legault.
Tannant, hein?
C'est un peu tannant. Bon.
Il restera pas dans le bureau quand François Legault va partir, là.
Ben là, peut-être, maintenant, on ne sait plus. Mais dans la vraie vie, je veux dire, il aurait dû le payer lui-même. Ça se peut que ça ait été une erreur. Et à un moment donné, il dit « Ah, pouvez-vous me procurer le chandail? Il faut que j'aille à mon autre événement, tout ça. » Mais tu peux pas faire ça en ce moment-là. Même si tu dis « Je vais rembourser dans 6 mois », ça paraît mal. Donc, moi, je trouve qu'on se crée une crise avec des niaiseries. Puis souvent, c'est des petits montants, mais Véronique, tu le disais, t'as tout cumuler les montants puis le total que ça donne dans un contexte budgétaire où on va dire à tout le monde de serrer la ceinture, ou est-ce qu'on va dire à des OBNL, non, on ne peut pas te donner de l'argent de plus.
Ou on dit aux municipalités, vous gérez mal, on n'a pas plus d'argent pour vous autres. On a l'impression qu'on est dans un gouvernement d'économie de bout de chandelle pour essayer de rattraper le 11 milliards de dollars.
Mmh. Si tu veux avoir un discours d'optimisation, parce que là, on ne peut pas dire austérité. vérité. Mais non, mettons, d'optimisation, tu peux pas avoir ça là, dans les jambes.
Est-ce que tu crois aux erreurs de bonne foi ou c'est plus un way of life qui s'est installé? Parce que là, c'est ça qu'on nous dit. Il y a des gens qui se sont trompés de carte de crédit quand ils sont allés au club de tennis, quand ils ont gazé leur voiture et ainsi de suite. Ça a plus l'air d'être quelque chose de courant et d'étendu que des erreurs de bonne foi. Moi, je me trompe pas de carte souvent puis je suis assez malhabile.
Ben, mettons que je suis assez d'accord avec toi. Là, de mettre ta carte de crédit dit corpo sur ton compte Amazon, moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit. Là, puis moi, je ne travaille pas présentement pour le gouvernement. Je travaille dans le privé, puis je ne le ferais même pas avec la carte corpo de mon entreprise. Donc, pour moi, c'est un peu incompréhensible, honnêtement. Mais une fois de temps en temps, on dirait que ça prend un gros coup de fouet médiatique pour faire un ménage. D'après moi, il va y avoir un ménage qui va être fait, des règles qui vont être ajoutées. Là. On avait vu d'autres dépenses dans des sociétés d'État cette année. Là, le Journal de Montréal avait fait une vaste enquête des restaurants très chers, des choses comme ça. Puis après ça, on va mettre des maximums, on va mettre des balises. C'est fou hein, que ça prenne ça, mais ça prend ça. Ça prend à un moment donné une de journal pour changer les choses.
Puis Antonine, des fois, c'est une question de timing aussi. Ça arrive dans la même semaine où on a appris, encore une fois, dans les médias, qu'on songeait à l'idée de retirer des médecins de famille à des gens qui les utilisent pas assez au goût du ministère pour les redonner à des gens qui en ont plus besoin.
Comment créer une levée de bouclier 101? Par contre, c'est... On va les défendre un petit peu. C'est un scénario qui est étudié. Puis dans le cadre de négociations, des fois, des petits morceaux comme ça qui coulent dans les médias, un peu désincarnés du reste des négociations. Moi, je serais bien surprise qu'on vous enlève vos médecins de famille, pour être honnête.
Ben, si, mais il arrête de me faire payer de l'impôt pour. On peut jaser.
On peut jaser. Mais pour l'instant, c'est que c'est une loterie. C'est que soit que tu as un médecin de famille ou soit que tu n'as rien. Puis que là, t'as comme aucune alternative. Moi, je fais partie des gens, là, je vais me faire tirer des roches. J'ai fait un TikTok vendredi là-dessus et j'ai reçu une flopée de commentaires. Les gens sont fâchés juste à l'idée qu'on...
Parce que t'en as un.
Ben non, j'ai pas de médecin. Non, puis c'est justement mon point. Ouais. Moi, je pense qu'on n'a pas tous besoin, effectivement, d'un médecin de famille. On a besoin d'accès. Des infirmières spécialisées peuvent faire le même travail. Moi, c'est ça que j'ai. J'ai une infirmière spécialisée, une PS, dans une clinique, puis elle me réfère vers un médecin seulement au besoin.
Quand t'en as besoin, oui.
Mais j'ai un accès. Mm. Alors qu'en ce moment, les gens qui n'ont pas de médecin, ils n'ont rien. Ils ont l'urgence.
Pis c'est tout.
Ou rien, ouais. C'est-à-dire qu'on laisse des problèmes de santé traîner. Fait que là, on nous dit, si vous êtes en santé, vous n'avez pas besoin de médecin de famille. Oui, mais justement, s'il n'y a pas de prévention, s'il n'y a pas de dépistage, on se magasine des gens pas en santé.
T'es en santé jusqu'à ce que tu sois malade. Puis ben, si tu as accès au système de santé seulement quand tu es malade, ben on a peut-être manqué une opportunité de te guérir avant que ce soit trop grave, par exemple.
Quand on en a parlé, il y a eu beaucoup de commentaires aussi à l'effet que, oui, il y a des gens qui, malheureusement, ont des problèmes de santé qui sont plus graves parce qu'ils ont tiré le mauvais numéro à la loterie. Mm-hmm. T'en as, par contre, qui ont ces problèmes de santé-là parce que leur hygiène de vie laisse à désirer. Fait qu'il y a eu beaucoup ça comme réaction en disant, « Hey, moi, on me dit de faire attention à moi, justement, d'être dans prévention, de bien manger, de m'entraîner, de ci, de ça. Ouais, » Puis on me punit, on me dit... On va te laisser de côté, là. Tu vas falloir que tu travailles plus fort pour avoir ton accès à ton médecin si parfois tu as besoin.
C'est des commentaires que j'ai reçus beaucoup.
Incroyable, hein?
De dire, tu sais, il y a des gens qui sont diabétiques, que c'est pas leur faute, mais il y a des gens qui sont diabétiques parce qu'ils ont des mauvaises habitudes de vie. Est-ce qu'on va surveiller les habitudes de vie des gens? Est-ce qu'on va enlever des médecins de famille à des gens qui font des beaux, qui ont des bonnes habitudes de vie pour être en santé? Donc, où tu tires la ligne? Par contre, c'est déjà un peu le cas sur la liste d'attente quand vous attendez pour avoir un médecin pendant 1 million d'années, là, puis que vous perdez espoir. Il y a des priorisations. Si vous avez un problème de santé chronique, vous allez probablement être priorisé. Puis le gouvernement aimerait que ces patients-là soient plus pris en charge. Parce que c'est vrai que si tu n'as pas de diabète ou que tu n'as pas une maladie respiratoire, de l'asthme chronique, peu importe, ben, tu n'as peut-être pas besoin d'avoir un médecin tout le temps. Mais il faut que tu aies une alternative. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à l'urgence. De toute façon,
puis c'est là qu'ils veulent pas qu'on aille. Je veux dire, ça fait des années qu'ils nous disent allez pas remplir les corridors d'urgence pour des choses qui sont pas urgentes, mais pendant des années pour les Québécois, c'était le seul corridor d'accès que tu pouvais, fait qu'on savait pas où aller, on se ramassait là avec nos poussettes puis
on attend pendant 6 heures, et puis oui. On devrait être chez nous en train de se reposer, mais c'est ça, notre système de santé est beaucoup centré autour de l'hôpital, puis ça fait des années qu'on essaie de sortir de ça et c'est très difficile, puis il est beaucoup centré autour du médecin. Moi, je crois beaucoup qu'il y a d'autres professionnels de la santé qui pourraient être des portes d'entrée intéressantes. Puis là, on parlait de dépistage tantôt, puis de prévention. De faire des tests de dépistage sans devoir passer par un médecin, ça se fait de plus en plus. Cancer du sein, cancer colorectal, pourquoi pas multiplier ces initiatives-là plutôt que de devoir aller chez le médecin pour tout?
Je vais prendre l'exemple que j'ai utilisé toute la journée. J'ai un enfant qui fait des otites à répétition. Il n'a pas besoin d'un médecin. Il a besoin de sa prescription, du sirop pour les otites.
Mais le pharmacien, il ne t'adonnera pas non. Si tu n'as pas eu dans les 6 derniers mois, je ne sais pas quoi. Puis il n'y a pas de raison. Des infections urinaires, des affaires que tu sais ce que tu as.
Qui sont souvent récurrentes.
Puis qui sont récurrentes. Puis que si tu vas à l'urgence, tu vas attendre 2 jours à peu près.
Tu vas te faire à la limite juger, mais tu n'as pas d'autres portes d'entrée. T'sais.
Mais c'est ça. Mais tu ne peux pas laisser aller une otite à l'infini avec des enfants. Ça peut créer des problèmes très graves. Tu ne peux pas laisser une infection urinaire s'étaler sur 2 semaines non plus. Fait que les gens font quoi? Ils vont à l'urgence.
Mais là, Antonine, les politiciens sont-ils autant blasés que nous autres? Parce que les chiffres qu'on voit aujourd'hui sur le système de santé, t'es politicien, tu te dis là, faut arrêter de bretter puis faut vraiment changer les choses. Je veux dire, t'as une majorité de Québécois qui pensent que les services de santé se sont détériorés dans les 5 dernières années, puis t'as le tiers des Québécois qui disent que c'est médiocre égal il y a 5 ans versus aujourd'hui. Je veux dire, tout est là pour dire là, faut arrêter de niaiser puis faut changer les choses. Puis est-ce qu'on peut le faire avec des ministères aussi lourds? Je ne sais pas.
Ouais, bien la santé, c'est le plus gros poste budgétaire. Donc c'est dur de changer les choses aussi rapidement qu'on le voudrait. Après ça, il y a plein de conventions collectives. Là, on est en négociation avec les médecins à l'heure actuelle. Ce soir, les votes pour la FIC vont commencer. Il n'y a rien qui se fait simplement parce que le ministre a une idée dans son bureau. Il faut être bien clair.
Ben, ministres de la Santé qui avaient des idées, on en a eu quelques-uns, veux dire.
Les idées de réforme, on en a eu. Ouais. On a quand même un ministre qui, ben, premièrement, qui commence à être là depuis un bout de temps, donc qui travaille sur le long terme. Il y a eu la réforme, le projet de loi qui met en place, qui est en train d'être déployé.
Pour l'Agence Santé Québec.
Pour l'Agence Santé Québec. Il y a énormément de cynisme entourant la santé, mais en même temps, moi, ce que je sens quand on parle avec les gens de tout ça, c'est qu'il y a quand même une certaine confiance envers Christian Dubé.
Ah, parce que lui pourrait faire plein d'autres choses. Il aurait pu prendre un autre ministère, puis on a l'impression que c'est un gars qui s'est donné une mission puis qui veut se rendre jusqu'au bout plutôt que par opportunisme. Là.
Oui, puis on dirait que les scandales puis la politique, ça ne colle pas vraiment sur la peau. Donc lui, il fait ses affaires, il fait ses réformes, puis il y a quand même beaucoup de choses qui sont en cours de route. Et la priorité des Québécois, ça demeure toujours la santé, sondage après sondage, puis c'est très concret, on le vit tous, on a tous une histoire à raconter là-dessus. Est-ce que ça va changer rapidement, en plus que rajouter à ça la pénurie de main-d'œuvre?
Le vieillissement de la population.
De la population, c'est comme la tempête parfaite.
Oui.
Voilà. Donc, je pense qu'on n'a pas le droit d'être défaitiste. On n'a pas le choix de continuer d'essayer. Puis, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas fermer la chope puis dire tant pis.
C'est quand même triste de voir que du défaitisme, il y en a de plus en plus dans la population. Puis maintenant, le go-to, c'est le privé parce que tu n'as plus le choix. Et c'est pour ça qu'en 5 ans, tu en as de plus en plus qui l'ont utilisé, le volet privé du système. Là.
Oui, puis il y a aussi un phénomène de médecins qui quittent le régime public pour aller vers le privé. Ben donc, ça vient empirer encore plus la question de l'accès. Puis, les gens pensent que c'est pas grand-chose, le privé, là, au Québec, mais c'est en croissance.
Bien, il y a un besoin.
puis les médecins n'ont pas le droit de faire les deux. Hein. Ils ne peuvent pas être conventionnés puis déconventionnés en même temps. Ils ne peuvent pas faire du in and out.
Donc, ça pourrait être une solution, ça?
Bien, ça fait débat, mais c'est sûr qu'à partir du moment où est-ce que quelqu'un quitte le public pour aller dans le privé, qui fait du 9 à 5, qui a des belles conditions de vie, bien, c'est quoi son intérêt à revenir dans le public?
Incroyable, mais vraiment, Antonine, on s'est gardé le pire pour la fin. C'est l'histoire de l'école primaire Bedford. C'est dans le secteur Côte-des-Neiges de Montréal. Puis là, je vais vous lire des choses qui se sont déroulées dans cette école-là et c'est des choses qui ont été vérifiées et confirmées. Moi, quand j'ai lu ça en fin de semaine, j'en revenais juste pas. J'avais de la misère à le croire même, puis je sais pas si c'est une des raisons pour lesquelles on a mis tant de temps à intervenir. Donc, dans cette école-là, quelques interventions ont dû être effectuées pour permettre aux jeunes filles qui le souhaitaient de jouer au soccer parce que des professeurs auraient mentionné que ce sport était réservé aux garçons. Certains jeunes sont envoyés dans le corridor parfois pendant des périodes considérables sur plus d'une journée. Il y a des enseignants qui affublent certains élèves de noms peu gracieux, les traitant d'extraterrestres et de causes perdues. Et ça, c'est des termes qu'on répète aux enfants et aux parents. Selon certains enseignants, l'autisme n'existe pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans certaines classes, l'enseignement magistral se limite à lire l'encadré qui précède les exercices dans le manuel. Et à cette école-là, entre autres, ben, les cours de sciences et de sexualité seraient vraiment gardés au strict minimum. De ce qu'on comprend, tu as deux gangs de profs. Dans les deux gangs, essentiellement, c'est des profs immigrants qui ne voient pas du tout l'enseignement au Québec de la même façon. Mais dans la partie dominante de ces professeurs-là, ben c'est tout ce que je viens vous lire. Là, comme, mais comment on a pu faire pour laisser se dégénérer une situation comme celle-là?
Deux mots, moi, qui me sont venus à l'esprit quand j'ai entendu ça, quand j'ai lu ça. Grande noirceur.
Hein? Hey, j'en ai oublié un autre. Quand un élève perd connaissance, on prie. On n'appelle pas l'urgence.
Exactement.
Puis le scandale, sais-tu que c'est pas comme ça partout au Québec?
Non,
je suis pas à bonne place.
Ouais, je pense que t'es ailleurs, Max. Ouais.
C'est le genre d'affaires qu'on lisait concernant les écoles privées religieuses.
Des années 40-50.
Ben, ça existe encore dans certaines régions, des écoles complètement à part du système d'éducation, des écoles juives, pour ne pas les nommer, là, qui font de la prière, qui refusent de faire de l'éducation sexuelle, la science. On parle beaucoup, beaucoup de religion dans ces écoles-là. Mais là, on parle d'une école qui fait partie du
réseau
scolaire.
De notre système, ben oui.
Qui est sous la responsabilité du Centre de services scolaires de Montréal. C'est hallucinant. Moi, je vais vous le dire, là, je me suis mise à pleurer quand j'ai lu ça.
C'est parce qu'il y a des jeunes qui subissent ça depuis des années, puis qu'on
enfants.
A amputé leur parcours académique avec ça. Là.
Écoutez, moi, j'ai des enfants qui ont des enjeux à l'école. Là. Mes enfants sont diagnostiqués avec la douance. Okay? Puis ça, généralement, c'est un peu nouveau. Les profs, il y en a qui embarquent, qui n'embarquent pas. C'est pas grave. Puis nous, on n'est pas des parents là, qui veulent accabler les enseignants. On veut juste essayer de trouver des trucs pour que ça se passe bien. Puis moi, j'ai eu un enseignant, c'était en cinquième année, qui ne croyait pas à ça, lui, la douance. Au potentiel.
Aucune sensibilité, là, aucune ouverture.
On a tellement eu une année désagréable. Puis, tu sais, c'était pas un violent intimidateur qui faisait des prières quand le monde perdait connaissance. Puis même à ça, on a vraiment une année extrêmement difficile. Donc, j'essaie de penser à comment ces jeunes-là, leur estime d'eux-mêmes, je veux dire, ça doit être dommageable fois mille. Je sais pas quel genre de soutien vont recevoir ces élèves-là, parce que là, ça fait des années.
Bien là, oui. Puis comment ça se fait que... Moi, je pensais que ça servait à ça, les commissions scolaires, encadrer les écoles, surveiller...
Éviter les dérives
comme ça,
mais
justement.
Ce qu'on apprend, puis ce qu'on voit à la lecture du rapport, c'est qu'il y a des éléments qui peuvent être subjectifs, des fois. Je comprends. Moi, quand j'ai dit à la direction de l'école, ce prof-là ne croit pas au diagnostic de mon enfant, comment voulez-vous qu'on mette en place des solutions pour l'aider? Bien, ils ne l'ont pas renvoyé, vous comprenez? Uh-huh. Là, on est dans... Bon, on a pris notre mal en patience. Mais quand on apprend que le programme scolaire n'est pas suivi,
c'est ça,
qu'il y a des gestes de violence à répétition, moi, je vous sacrerais ça dehors. Là,
on a la même vision.
Bon. Fait que là, on se demande comment on peut se rendre à cette situation-là où il n'y a rien qui se passe pendant des années. C'est que, dans le fond, le centre de services scolaires doit constater des choses. Hein. Il doit avoir des preuves. Ça ne peut pas seulement être des
oui-dire,
des oui-dire ou... comme tel. Et le ministre Drainville disait que même lui, du côté du ministère, n'avait reçu aucune plainte. Ça veut dire que c'était jamais monté jusqu'au ministère. Mm-hmm. Donc, il y avait comme une espèce d'ambiance de... On garde ça à l'intérieur.
Loi du silence, quasiment.
Ben, c'est un peu ça. Ce qu'on apprend aussi, c'est que les profs qui sont dans l'autre gang, donc ceux qui dénonçaient la situation, ben, il y a du roulement. Les gens quittent. Parce que les profs de la clique là, dont on parle, ils font de l'intimidation aussi avec les enseignants qui se plaignaient.
Dégueulasse.
Donc, voyez-vous le climat toxique. Là, on apprend aussi qu'il y a trois autres écoles qui vont être sous enquête. Hein.
Toutes dans le même centre de service?
Oui. Et on apprend aussi, puis il faut lire entre les lignes un peu, là, le ministre n'a pas dit ça comme ça, mais qui sont, c'est pas des loups solitaires, que tout ça, c'est lié et qu'il y a des liens à faire avec un certain centre culturel.
OK.
Donc, c'est...
Et que c'est un panier de crabes, qu'on ne doit pas avoir le goût de se mettre les deux mains dedans.
Des gens
là.
En mission, vraisemblablement.
Il y a une idéologie derrière
au Québec,
ces actions-là
là,
au Québec.
En 2024.
Dans nos écoles. Donc, il y a vraiment matière à être fâché. Ce qui a été précisé aussi, c'est que les enseignants de l'autre gang, ceux qui dénonçaient les comportements de leurs collègues, il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même panier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup des profs qui avaient des comportements qui n'avaient pas de bon sens, qui étaient effectivement des musulmans, il faut dire, mais aussi des profs qui dénonçaient la situation, qui sont aussi des musulmans.
Exact.
Donc, il ne faut pas tomber...
Ils n'ont pas deux religions l'une contre l'autre.
C'est ça. Puis il ne faut pas non plus que cette histoire-là devienne un prétexte à être intolérant, puis xénophobe, puis de faire de l'islamophobie non plus.
Mais est-ce que c'est plus facile dans une grande ville comme Montréal de faire en sorte que plusieurs immigrants se retrouvent dans des enclaves où ils n'ont pas à apprendre le français, ils ne sont pas en contact avec la réalité du Québec. Parce que je prenais des exemples ce midi, on en a parlé avec Marceau, puis je parlais de Rivière-du-Loup, puis je parlais de Hérouville, des endroits, oui, Hérouville, là, la place où ils ont fait un code de vie, où ce qu'ils disaient, ici, on ne brûle pas les femmes. Oui. Bien, Hérouville, présentement, c'est une médaille d'or de l'intégration. Mm-hmm. Ça a de l'air. Il y a des beaux programmes qui ont été mis en place. Les immigrants qui arrivent, ils ont des jobs, ils trippent, ils s'intègrent, quelque chose de le fun. Je l'ai vu à Rivière-du-Loup cet été. J'en revenais pas comment c'était rendu coloré à Rivière-du-Loup. T'as un parc de l'intégration qui te raconte que dans les 10 dernières années, on a travaillé très fort pour amener des gens d'autres communautés, puis que ça fait maintenant partie de la fierté de Rivière-du-Loup. Puis j'ai vu un match de soccer d'un parc, eux autres prennent ça à cœur comme la Coupe Stanley. Là. Je veux dire, c'est beau de voir ça. Mais dans une ville comme Montréal, où il y a tellement de monde, moi, j'ai l'impression que les immigrants arrivent, ils se tiennent tous dans le même coin, dans la même rue, puis les contacts étant limités, c'est peut-être plus facile que sur plusieurs années, il y a des dérives comme ça qui s'installent même au cœur même de notre système scolaire.
Mais j'irais de façon peut-être un peu plus précise que les immigrants, puis de parler plus de religion.
Oui.
Puis, parce qu'il y a une montée du radicalisme aussi, mm-hmm. de façon générale. Puis moi, je vois vraiment un enjeu de religion. On a décidé au Québec que nos écoles étaient laïques, n'est-ce mm-hmm. pas? Bien, laïques. Il y a des croix, des fois, ces écoles, parce que ça date d'une autre époque. Il ne faut pas non plus tout détruire, démolir les murs pour ça. On a décidé que l'école était laïque et que la religion n'avait pas nécessairement de place à l'école, outre faire des cours de religion générale, les cours de culture religieuse, où est-ce qu'on aborde toutes les religions. Et on a un phénomène de radicalisation où il y a certains chefs religieux, qui encouragent à, disons, transporter les valeurs vers les enfants dans nos écoles. Et ça vient nous chercher tout particulièrement parce qu'on a sorti, nous, la religion...
Oui, on l'a fait, ce chemin-là.
...de l'éducation pendant la Révolution tranquille. Outre les questions patrimoniales, la religion, ça ne fait plus partie de notre gouvernement, de notre système de santé puis notre système d'éducation. Donc, c'est ça qui vient nous confronter. Puis le premier élément de défense que ces profs-là ont donné quand ils ont commencé à être rencontrés, devinez, c'est quoi?
C'est quoi?
Vous êtes raciste.
Ah,
donc, là, il y a ça aussi. Il va falloir aussi s'assumer qu'il y a des valeurs qui sont au cœur de ce que nous sommes au Québec. L'égalité homme-femme, par exemple.
Ouais.
Là, on parlait de reconnaissance de l'autisme. Puis ça, c'est la reconnaissance de la science, les amis. Là, t'sais. Fait que ça rentre en contradiction avec certains groupes plus radicaux dans leur pratique de la religion. Il faut dire, il faut être ferme, ce sont des valeurs fondamentales. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas le droit de pratiquer leur religion.
Il n'est pas là le point.
Mais ça ne sera pas à l'école que ça va se passer. Il n'y aura pas de prière dans les écoles.
Ce n'est pas la religion qui va dicter comment l'éducation va fonctionner.
Non, il y a un programme scolaire. Puis là, j'arrive à mon dernier point d'explication pourquoi ça fait des années que ça ne change
pas. C'est dur à croire, tu sais.
Bien, c'est qu'il y a une question aussi de syndicat à travers ça, c'est-à-dire que les profs, c'est difficile de mettre un prof dehors, je vous l'annonce.
C'est
très difficile. L'année passée, le ministre de l'Éducation a passé un projet de loi, là, puis là, ça criait à la centralisation, là, qui se donnait les pouvoirs justement de faire des enquêtes. C'est notamment grâce à ce projet de loi-là qu'on est capable de déclencher 11 enquêtes sur ces enseignants-là. Mais les syndicats vont défendre leurs membres à la vie, à la mort.
Même dans des évidences comme ça d'errance, puis moi ça m'enrage, puis je le sais parce que on a parlé d'une histoire syndicale à la ville de Québec.
L'employé qui, sous influence, a eu un accident avec un citoyen, puis le syndicat a fait « Hey, il n'y a pas eu de gradation dans la sentence, ils doivent leur prendre la ville. »
Il y a comme eu un épisode de speed qui a duré 4 jours où il a perdu 4 fois les clés de son mobile, là, mais bon. Puis il y a quelqu'un qui nous a écrit pendant qu'on échangeait là-dessus, puis qui disait « Ouais, mais c'est parce que tu comprends pas l'existence même du syndicat, c'est de défendre ses membres, c'est ça la business, puis c'est pas à eux autres de juger. Ouais, mais c'est parce que le gars qui paye des cotisations syndicales, qui se comporte bien, que lui aussi est mal à l'aise parce que son chum est gelé, il me semble que sa contribution syndicale a un poids dans la balance. Là, on est dans un système scolaire qui garantit à nos parents et à nos jeunes certaines valeurs et certaines choses, puis ça a pas été respecté pendant des années. » Moi, ce serait un dossier où le syndicat pourrait se reculer poliment puis dire « Bien, celui-là, gérez-vous tout seul. »
Mais ils sont beaucoup sur les principes.
Ouais.
C'est que si on recule sur lui, on ne reculera pas sur l'autre, blablabla. Donc, il y a ça. Puis, il y a un autre élément aussi dans l'histoire qui est troublant, c'est que les groupes de parents, les comités de parents aussi sont noyautés par cette gang-là, là, puis cette idéologie-là aussi. Bien, c'est possible pour les centres de services scolaires de les mettre sous tutelle. Puis ça, c'est un peu dur de comprendre pourquoi ça n'a pas été fait. Mm-hmm. J'écoutais la patronne du centre de services scolaires. Elle disait, nous, il faut que ce soit des situations qu'on porte à notre attention. Donc, c'est comme si à chaque étape, tout le monde
C'est dédouané un peu, comme...
Oui, puis c'est comme si on se disait, on va réussir à changer les choses. Ils ont fait un plan d'action, ça s'est amélioré. Mais moi, je vais vous dire bien franchement, en terminant, là, que si on ne met pas ces profs-là dehors, là, pensez-vous vraiment qu'ils vont changer de comportement demain matin?
Sûrement pas. On leur donne le dernier mot.
Bien, là, quand tu agis comme ça...
Pendant des années et des années...
C'est pas une règle de code de vie qui va changer quelque chose à ça. Là.
On a tout de suite un vieux prof boqué qui voulait pas changer ses habitudes. Là. Ben imaginez-vous une gang de profs au complet qui ont des convictions religieuses très fortes. Là. C'est pas un code de vie qui va les faire changer d'idée.
Puis, il y a un lien aussi à faire avec l'histoire qu'on avait vue il y a quelques semaines. Un prof homosexuel qui se faisait intimider à l'école, qui a pas été soutenu par la direction. Puis, notamment aussi, il y avait des questions de religion à travers ça. Donc, on a un problème. Je pense que ça va être pris probablement en main par l'Assemblée nationale. À mon avis, ça va faire l'objet d'un débat plus profond puis une réflexion sur le climat dans nos écoles et notamment dans certains quartiers, il faut le dire. C'est tabou, mais il faut en parler parce que là, on le voit, là, ça nous saute en pleine face cette semaine.
Beaucoup de réactions sur ce qu'on vient de jaser, puis des histoires de diagnostics que des profs ne veulent pas reconnaître. Là, j'en ai quelques-unes sous les yeux. On a été 2 ans avec un prof qui ne croyait pas au diagnostic d'autisme de mon fils. Même quand on lui a déposé le diagnostic, il dit « Je comprends que vous avez payé pour un papier qui dit que votre fils est autiste, mais c'est pas ça de l'autisme. C'est pas ça être autiste. Depuis que mon fils n'est plus dans cette classe, ses notes ont augmenté de 20% par matière. »
Je suis tellement désolée d'entendre de lire ça. Pour un parent... C'est la pire affaire qui ne peut pas t'arriver, je pense. Parce qu'on n'a pas le choix, en plus, d'envoyer nos enfants à l'école. On aimerait ça les protéger.
Exact.
Tu les envoies à l'école, tu te fais dire des affaires de même.
Puis la différence entre un scénario de parents qui n'est pas compris au niveau du système d'éducation versus des profs qui sont attentifs, qui sont sensibilisés, je veux dire, c'est un univers de différence.
Tellement.
Antonine, merci beaucoup.
Hey, merci à vous.
Ça a été le fun. Bien, ça a été le fun. Il y a plein
c'est
de
marge. C'est des sujets difficiles, mais quand même.
Mais donc il faut parler. Là.
Ouais.
On a bien réfléchi ensemble.
Il est à 16h34. Vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour. Continuez d'écrire, continuez de partager. C'est le fun. 418-971-1021. Gravel.